Chapitre 54. Plaine d'Ilium. Olympos. Je quitte la cité en flammes pour partir en quête d'Achille, et je vois le chaos régnant en maître jusqu'à la mer. Des portes scellées à la plage, Troyens et Achéens évacuent les cadavres des cratères fumants, et partout des hommes choqués aident leurs camarades blessés à regagner tantôt Ilium, tantôt les campements grecs. Comme il en allait le plus souvent des bombardements aériens durant mon époque, celui-ci était beaucoup plus terrifiant que meurtrier. On déplore certes plusieurs centaines de victimes, troyennes et achéennes, civiles et militaires, mais l'immense majorité des gens sont indemnes, en particulier lorsqu'ils ne se trouvaient pas à proximité d'un bâtiment. Alors que j'avance en titubant au pied de la colline Batier, je vois le petit robot se diriger vers moi, traînant au bout d'une longe son titanesque ami crustacé, me faisant penser à un garçonnet tractant son gros jouet. Pour une raison qui me dépasse, je suis si ravi de les voir vivants, quoique le terme existant soit peut-être plus approprié, que je manque éclaté en sanglots.
« Vous êtes blessé, Oakenberry ?»
me lance le robot Manmuth.
« Est-ce grave ?»
Je me palpe le front et le cuir chevelu. Mes plaies ne saignent presque plus. Ce n'est rien.
« Oakenberry, savez-vous ce que c'était, cette explosion ?»
Une bombe nucléaire. Peut-être thermonucléaire, mais je soupçonne une simple bombe à fission. Un peu plus puissante que celle d'Hiroshima, peut-être. Je ne m'y connais guère. Manmuth me fixe en inclinant la tête sur le côté.
« D'où venez-vous, Oakenberry ?»«
De l'Indiana, » répliquai-je sans réfléchir. Manmuth attend la suite. « Je suis un scoliaste, » lui dis-je, sachant qu'il retransmet notre conversation par radio à son ami. Les dieux m'ont reconstitué à partir de vieux os, de mon ADN et de quelques fragments mémoriels extraits de mes restes retrouvés sur Terre.
« Ils auraient obtenu de la mémoire à partir d'ADN ? Ça m'étonnerait. »
J'agite les mains en signe d'agacement. « Aucune importance. Je suis un cadavre ambulant. J'ai vécu durant la seconde moitié du XXe siècle et je suis sans doute mort au début du XXIe. Les dates restent vagues. Tout ce qui a trait à ma vie d'avant est resté vague jusqu'à une date récente, lorsque mes souvenirs sont remontés à la surface. Je secoue la tête. Un cadavre ambulant, vous dis-je. » Manmuth continue de me fixer avec cette bande noire qui lui fait office d'yeux. Puis il opine avec sagesse et me flanque un coup de pied dans le tibia gauche.
« Nom de Dieu !»
m'exclamai-je en clopinant.
« Qu'est-ce qui vous prend ?»«
Vous me semblez bien vivant, » rétorque le petit robot. « Comment avez-vous fait pour venir ici depuis le XXe ou le XXIe siècle de l'ère perdue, Oakenberry ? La majorité de nos scientifiques morts avec s'accordent pour dire que le voyage dans le temps est une impossibilité, sauf si on approche la vitesse de la lumière ou si on nage trop près d'un trou noir. » « Avez-vous accompli l'une ou l'autre de ces prouesses ?»«
Je n'en sais rien, » dis-je. « Et ça n'a aucune importance. Regardez-moi ça !»
Je désigne d'un geste la cité en flammes et le chaos qui règne sur la plaine d'Ilium. Certaines nefs grecques gagnent déjà le large. Manmuth opine. Pour un robot, il a un langage corporel étrangement humain.
« Orphus se demande pourquoi les dieux ont interrompu leur assaut, »
dit-il. Je me tourne vers la gigantesque carapace cabossée qu'il traîne derrière lui. J'oublie parfois qu'elle est censée abriter un cerveau. Dites à Orphus que je l'ignore. Peut-être souhaite-t-il jouir un temps de la terreur et du chaos qu'ils ont semé avant d'admirer le coup de grâce. J'hésite une seconde. C'est une expression française signifiant
« Oui, je parle français, hélas !»
coupe Manmuth.
Durant le bombardement, Orphus me citait un passage de Proust totalement déplacé. Que comptez-vous faire ensuite, Oakenberry ?
Je me tourne vers le campement achéen. Les tentes brûlent, les chevaux blessés s'égayent sous l'effet de la panique. Les hommes tournent en rond, les nefs se préparent à appareiller quand elles n'ont pas déjà levé l'ancre, toute voile dehors. Je voulais retrouver Achille et Hector, mais ça risque de me prendre des heures dans ce foutoir.
Dans 18 minutes et 35 secondes, il va se produire quelque chose qui risque de tout changer.
Je le regarde et j'attends la suite.
« J'ai dissimulé un engin dans le lac de la Caldeira, »
dit le petit robot.
« Orphus et moi l'avons apporté avec nous de l'espace jupitérien. Notre mission consistait avant tout à le placer là-bas, bien que les véritables responsables de son acheminement fussent... Enfin, bon, cela est une autre histoire. Bref, l'engin va s'activer dans 17 minutes et 52 secondes.
« C'est une bombe ?» demandai-je d'une voix éraillée. J'ai la bouche subitement asséchée. je serais incapable de cracher même si ma vie en dépendait. » Manmut hausse les épaules d'une façon étonnamment humaine.
« Nous ne le savons pas. »«
Vous ne le savez pas ?» beuglai-je. « Vous ne le savez pas, mais comment pouvez-vous placer quelque part un engin à retardement sans même savoir ce que ça va faire ? C'est ridicule !»«
Peut-être, » fait Manmut. « Mais telle était la mission que nous avaient confiée les Moravec qui nous ont envoyés ici, ou plutôt là-bas. »
« Combien de temps avez-vous dit ?»
Je m'empare du bracelet de cuir passé à mon poignet qui dissimule mon chronomètre. Il est équipé de micro-circuits et de petits projecteurs holographiques, grâce auxquels je peux afficher une horloge.
« 17 minutes et 8 secondes, »
dit le petit robot.
« Et le compte à rebours continue. »
Je règle mon chronomètre en laissant afficher l'horloge holographique.
« Merde !»«
Oui, »
opine Manmut.
« Avez-vous l'intention de vous técu là-bas, au Kunberry ? À Olympos ?»
Je viens d'agripper le médaillon TQ pendu à mon cou, mais seulement parce que j'envisageais de me téléporter dans le camp achéen afin de retrouver Achille au plus vite. La question de Manmut m'ouvre de nouveaux horizons.
Je devrais peut-être, dis-je.
Il faut bien s'informer sur les agissements des dieux. Sans doute pourrais-je jouer à l'espion une dernière fois.
Et ensuite ?
Demande le robot. C'est à mon tour de hausser les épaules. Ensuite, je reviendrai chercher Achille et Hector. Ainsi peut-être qu'Odysseus et Paris, puis Énée et Diomède, pour porter la guerre dans le camp des dieux en y transportant ses héros deux par deux, comme les animaux de l'Arche de Noé.
Sur le plan de la logistique militaire, cela ne me semble pas très efficient,
commente Manmut. Avez-vous des connaissances en matière de stratégie, petite personne robotique?
Non. En fait, toutes mes connaissances ont trait à un submersible qui a sombré sur Mars et au sonnet de Shakespeare.
Manmut marque une pause.
« Orphu me conseille de ne pas faire figurer les sonnets sur mon curriculum vitae. »«
Sur Mars ?» répétai-je.
La petite tête métallique se tourne vers moi.
« Vous ne saviez pas qu'Olympos était en réalité le volcan martien Olympus Mons ?
Vous avez pourtant vécu là-bas 9 années terriennes, non ?»
L'espace d'une seconde, je suis pris d'un tel vertige que je dois m'asseoir sur un rocher de peur de m'effondrer par terre.
« Mars ? Les deux petites lunes ? Le gigantesque volcan, le sol rouge, la pesanteur si clémente qui me faisait un bien fou chaque fois que je revenais de la plaine d'Ilium. Mars ! Putain de bordel ! Mars !
Manmut s'abstient de tout commentaire, estimant sans doute m'avoir suffisamment mortifié pour aujourd'hui.
Un instant ! Sur la planète Mars, on ne trouve ni ciel bleu, ni océan, ni arbres, ni atmosphère respirable. J'ai assisté à l'atterrissage de la sonde Viking en 1976. Des années, des décennies plus tard, j'ai vu à la télé les images transmises par le petit Sojourner avant qu'il se fasse coincer par un caillou. Il n'y avait pas d'océan, pas d'arbres, pas d'atmosphère.
Ils l'ont terraformé,
déclare Manmut.
Et il n'y a pas si longtemps que cela.
Qui a terraformé Mars ? Demandai-je furieuse, mais également sur la défensive.
Les dieux,
répond Manmut. Sa voix robotique me semble cependant avoir des accents interrogateurs. Je consulte ma montre, plus que 15 minutes et 38 secondes. Je place l'horloge holographique devant les yeux du petit robot, ou ses caméras, ou que sais-je encore.
Que va-t-il se passer dans 15 minutes, Manmut ? Et ne me dites pas que vous ne le savez pas, Orphu et vous.
Nous ne le savons pas.
Je vais aller là-bas pour me rendre compte par moi-même, dis-je en saisissant le médaillon.
« Emmenez-moi avec vous. C'est moi qui ai réglé l'engin. Je devrais être sur place lorsqu'il se déclenchera. »
Je marque une nouvelle pause, considère l'énorme masse derrière Manmut.
« Allez-vous le désamorcer ? » demandai-je.
« Non. Ma mission était de le livrer et de l'activer. Mais si le minutage ne fonctionne pas, il faut que je sois là pour le déclencher en mode manuel. »
« Est-ce que nous devons envisager, même à un faible taux de probabilité, la fin du monde, Manmut ? » L'hésitation du robot en dit long. Vous devriez passer auprès d'Orphu les 14 minutes et 39 secondes à venir, dis-je. Le pauvre est dans un tel état qu'il a besoin de vous pour être informé d'une éventuelle fin du monde.
Orphu déclare que vous êtes plutôt comique pour un scoliaste, Hockenberry. Je pense néanmoins que je devrais vous accompagner.
Primo, vous perdez un temps précieux en bavardage. Secondo, je ne dispose que d'un seul casque d'Hadès et je ne veux pas me faire prendre parce que les dieux verront un robot marchant à côté de mon corps invisible. Tertio, à la revoyure. Je me coiffe du casque d'Hadès, je tourne le médaillon et je disparais. Pour me retrouver en plein milieu du hall des dieux. Apparemment, ils sont tous là. Exception faite d'Athénée et d'Apollon que je suppose immergés dans une cuve de soins avec des asticots verts dans les yeux et sous les aisselles. Durant les quelques secondes qui me sont accordées avant que je me retrouve dans la merde jusqu'au cou, je constate que les dieux sont équipés et armés pour la guerre. Le hall est peuplé de plastrons dorés, de javelines étincelantes, de casques à cimier emplumés et de boucliers aussi gigantesques que resplendissants. Je vois Zeus debout près de son char en or massif, Poséidon vêtu de son armure de ténèbres, Hermès et Héphaïstos armés jusqu'aux dents, Arès portant l'arc d'Apollon, Hérée dans son armure de bronze et d'or, Aphrodite qui me pointe du doigt. Merde !
Scoliaste Oakenberry !
Rugit Zeus lui-même en me vrillant du regard.
On ne bouge plus !
Ce n'est pas seulement un conseil amical. Tous les muscles et les tendons, tous les ligaments et toutes les cellules de mon corps se fichent soudain. Je sens mon cœur cesser de battre. Même le mouvement brownien n'agite plus mon organisme. Ma main a le temps de se rapprocher d'un centimètre du médaillon TQ avant que je sois ainsi transformé en statue.
Qu'on le dépouille du casque d'Hadès, de l'appareil TQ et de tout le reste,
ordonne Zeus. Arès et Héphaïstos me déshabillent devant la foule de dieux et de déesses. Un Hadès furibond récupère son bien et, vêtu comme il est d'une armure chitineuse taillée dans quelque matière exotique, il m'apparaît comme un redoutable Lucane. Zeus s'avance et ramasse mon médaillon, me fixant d'un œil noir comme s'il allait le broyer dans son poing divin. Puis les deux dieux achèvent de me dévêtir, m'ôtant jusqu'à mon bracelet et mon slip.
« Tu peux bouger !»
dit Zeus. Je m'effondre sur le marbre pantelant et porte une main à mon torse. Mon cœur me fait tellement souffrir lorsqu'il se remet à battre que je redoute l'arrêt cardiaque. Ce n'est qu'à grand-peine que je me retiens de pisser devant tout le monde.
« Emmenez-le !»
dit Zeus en me tournant le dos. Arès, le dieu de la guerre, 2,50 mètres sous la toise, m'empoigne par les cheveux et me traîne derrière lui.